Bonjour à tous et merci d'avoir choisi France Bleu Isère, Portrait d'Isère, voyage en terre inconnue aujourd'hui. Notre invité, Philippe Gigliotti, a vraiment parcouru la planète. Il voyage depuis l'âge de 17 ans et c'est en 1996 qu'il découvre à plus de 14 000 km de la France, au nord de l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un pays où cohabitent plus de 800 langues et des centaines d'ethnies. Une terre de contraste avec ses montagnes, ses territoires de jungle profonde, ces plages de sable fin et blanc et les plus beaux fonds marins du monde. Une terre qui deviendra le centre de sa vie. Après avoir créé une agence locale, il monte son agence de voyage ici en Isère à Virieux-sur-Boubre. Voyage en Papouasie, c'est le nom de l'agence de voyage. Jusqu'à 14h, Philippe Gigliotti nous ouvre les portes de ce pays aux mille cultures sur France Bleu Isère.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Philippe Gigliotti, bonjour.
Bonjour.
Alors, on salue au passage Marc Dosier, un autre spécialiste de la Papouasie qui est passé d'ailleurs dans Portrait d'Isère il y a peu pour évoquer son voyage aux États-Unis avec un chef papou. C'est avec lui d'ailleurs que vous avez contracté le virus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Racontez-nous.
Oui, c'est avec Marc que j'ai eu la rencontre, que j'ai pu découvrir la Papouasie. C'est lui qui est allé le premier et qui m'a appelé en me disant « Viens vite voir, c'est incroyable ici, c'est magique, il faut absolument qu'on la visite ensemble. » Donc voilà, je l'ai rejoint là-bas en 96, effectivement, pour la
première
fois.
Vous êtes resté 6 mois.
6 mois, ouais. Je suis parti sans savoir combien de temps j'allais rester, sans savoir du tout ce que j'allais découvrir. Et ça a été un énorme coup de foudre tout de suite.
Alors, pourquoi ce coup de foudre? Parce que ça fait quand même 20 ans que vous arpentez la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui fait vraiment, je disais, partie du centre de votre vie, puisque vous avez une agence de voyage avec cette unique destination. Qu'est-ce qui vous fascine tant?
Alors, ce qui m'a tout de suite fasciné en Papouasie, c'est que c'est le pays qu'on appelle encore aujourd'hui la dernière frontière. C'est un endroit où très peu de gens vont. C'est un endroit où tout est aux antipodes de chez nous, géographiquement, mais aussi dans la tête, dans les attitudes, les coutumes, dans tout ce qu'on peut y voir. Donc là, au début, on est perdu. Et quand on est jeune et qu'on aime voyager, c'est quand même ce qu'on aime.
On aime bien être perdu.
On aime bien être perdu, donc on a l'impression de rien comprendre. Et puis, pour le jeune homme que j'étais à l'époque, c'était la sensation de vivre des aventures, comme dans les livres que j'avais lus toute ma jeunesse. C'était la sensation d'être en liberté complètement, de faire ce qu'on veut. Parce qu'en Papouasie, il n'y a pas de structure, il n'y a pas beaucoup d'État. On peut se promener, suite de discuter avec quelqu'un, il vous invite chez lui et vous y passez une semaine, parfois un mois, personne ne vous dit rien, vous avez le droit de partager la vie des gens comme ça. Donc voilà, ça a été ce coup de foudre-là.
Vous me disiez d'ailleurs qu'au cours de ces 6 mois, vous n'avez pas passé une seule nuit à l'hôtel.
Non, on n'a jamais dormi à l'hôtel. En arrivant, on était hébergé chez un Australien qui était prof d'anglais à l'université d'art à Port-Moresby. Donc c'était une toute petite université. C'était un peu le fame papou. Les gens apprenaient à chanter, à faire du théâtre. Ouais. Donc ça déjà, c'était un moment magique d'être avec ses étudiants pendant un mois et d'aller les voir répéter, danser, chanter, un mélange entre leur culture et les choses modernes. Et puis après, c'est les étudiants qui nous ont invités chez eux pendant leurs vacances. Donc voilà, on est allé dans un village, on y est resté 2 mois au bord de l'océan, dans un petit village, la carte postale du paradis, quoi, avec la mer, le récif de corail, la plage. On a essayé de s'intégrer en travaillant, on n'était pas très aptes à ça, donc ils nous ont
plutôt dit... Travailler, c'est-à-dire vous faisiez quoi ?
On voulait les aider à couper de la noix de coco, à débroussailler les champs, on a réussi qu'à se blesser à chaque fois, donc ils nous ont dit « restez tranquilles » plutôt. Mais c'était incroyable de partager une vie comme ça avec eux. Et puis ensuite, on est parti, on a quitté ces îles paradisiaques et on est monté dans les montagnes. Et là, c'est complètement un autre univers, beaucoup plus rude. Mais c'est encore plus l'aventure, j'ai envie de dire. C'est un endroit qui a été découvert il y a peut-être 80 ans, qui est découvert par les Occidentaux. C'est un monde tout neuf pour nous. Les gens étaient très surpris de voir des jeunes gens comme ça, des jeunes Françaises promener.
Oui, quand vous disiez que ça a été découvert il y a 80 ans, vous me l'expliquiez par des chercheurs d'or, et on n'imaginait pas qu'il y avait une population qui vivait, et subitement 1 million de personnes qui surgissent du sommet de la montagne, voilà. Ça doit faire drôle aussi.
Oui, c'est pour ça aussi qu'on dit la dernière frontière en parlant de la Papouasie. La Papouasie, c'est la côte, c'est une île, et puis des grandes montagnes, au milieu desquelles il y a des plateaux, et ces plateaux, on a longtemps cru qu'ils étaient déserts. On n'arrivait pas à y accéder en marchant. Les avions ne survolaient pas ça. Donc on se disait, bon, bah voilà, c'est une zone blanche où il n'y a rien. Et puis c'est les frères Lehi, des Australiens, qui en cherchant de l'or, ont été les premiers à y arriver. Et là, au milieu des années 30, il découvre 1 million de personnes qui vivaient à ce qu'on a appelé, je pense à tort, mais en tout cas à l'âge de pierre, parce que les gens connaissaient pas le fer, pas la roue, etc. Mais c'était des sociétés humaines organisées en village, en ethnie, qui se faisaient la guerre, qui jardinaient.
Très guerriers, vous m'avez dit, les papous.
Très guerriers, les papous, ouais. Mmh. Ils aiment bien ça, ils aiment beaucoup la guerre, et puis ça fait partie de leur culture. Et donc voilà, on a découvert, il y avait à l'époque, donc 80 ans, tout un univers et 1 million de personnes qui vivaient là. Et donc ça veut dire que les papous qu'on rencontrait à l'époque et ceux qu'on rencontre aujourd'hui, ça fait 3 ou 4 générations qui font partie du monde global d'aujourd'hui. Donc c'est tout neuf encore. Et c'est ce qui permet ces rencontres qui sont incroyables.
Oui, alors c'est une diversité incroyable, c'est ce que vous disiez, donc la montagne, les hauts plateaux, la forêt primaire aussi qui regorge d'animaux assez exceptionnels.
Oui, parce qu'il y a très peu d'habitants en Papouasie, donc il y a plein de zones où personne n'habite, et on a encore des espaces de forêt, je crois que la Papouasie c'est une des premières, ça doit être la deuxième plus
c'est
grande,
ce que
la deuxième
part,
forêt primaire
oui,
du monde
oui.
Une forêt primaire, ça veut dire qu'elle a jamais été coupée par l'homme. Et là, en allant encore plus loin que au bord des routes, en s'éloignant encore, on atterrit dans des petites communautés de quelques centaines de personnes qui vivent sur des territoires immenses et qui sont d'une beauté d'abord incroyable et d'une richesse en termes de biodiversité qui est sans équivalent ailleurs dans le monde. En plus, géographiquement, la Papouasie, c'est un endroit qui est coupé du reste du monde. Les espèces animales ne sont pas passées, donc c'est pratiquement que des espèces endémiques. La flore, c'est la même chose.
Et des jolies orchidées.
Voilà, pour l'instant, on en est à 2 ou 3 000 espèces d'orchidées en Papouasie. On en découvre chaque année. On découvre chaque année des animaux, des poissons, des insectes.
Alors,
c'est
oui.
C'est un pays qui est à découvrir, que ce soit pour les scientifiques ou pour nous qui aimons voyager. Voilà, tout est neuf.
Et dont on ne viendra jamais à bout, puisqu'il y a une diversité incroyable, une richesse. Alors oui, quand vous disiez c'est un pays qui n'est pas très grand et très peu peuplé, vous me disiez l'équivalent de l'Espagne,
oui,
au niveau superficie, pour 7 millions d'habitants, c'est...
Ça veut dire qu'on peut marcher parfois très longtemps avant de croiser quelqu'un, ouais.
Voilà, mais on va voir, vous avez croisé des papous, qui sont devenus aussi vos amis. On va pousser un petit peu les portes de ce pays magique avec vous, Philippe Gigliotti. On vous retrouve juste après Bruno Mars sur France Bleu Isère. Bruno Mars sur France Bleu Isère. Très bon début d'après-midi.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Et c'est voyage en terre inconnue avec vous, Philippe Gigliotti, de l'agence Voyage en Papouasie à Virieu-sur-Boumbre. Alors, vous organisez des voyages, on le disait, exclusivement à destination de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On peut dire que c'est 1000 pays en un.
C'est au moins 1000 pays en un, oui, effectivement. La Papouasie, c'est d'abord, géographiquement, c'est la mer, les fonds marins, les plages, les marécages, les fleuves, la montagne, les forêts primaires dont on parlait. Et puis, c'est 800 langues parlées, autant de parures, autant de façons de vivre, autant d'habitats différents. Autant de façons de penser, de gens différents aussi. Du coup, on peut en un voyage découvrir cinq univers complètement différents, tout aussi passionnants les uns que les autres.
800 langues, vous parliez quelle langue pour faire comprendre, Philippe ?
Alors, les Papous, quand les Occidentaux ont envahi, ou je sais pas comment il faut dire ça, la Papouasie, pour que les gens puissent communiquer entre eux, ont amené avec eux un créole d'anglais qu'on appelle le Tok Pidgin. Et qui a un anglais donc simplifié, un broken English, qui permet aux gens de se parler. Voilà, donc je parle moi cette langue, et ça me permet de parler avec presque tout le monde.
Alors dites-moi bonjour en Pidgin.
Oh, c'est morning.
Oh oui, ouais, donc, voilà. Pas mieux.
Happy noon, c'est plus joli, c'est pour l'après-midi.
Happy noon, oui.
C'est une langue qui est comme ça, c'est de l'anglais simplifié, comme je vous disais. C'est souvent de l'anglais raccourci, phonétique. Donc quand on est français, on s'en sort bien.
Ouais, j'ai parlé pidgin, ouais. En fait, j'ai trouvé. Alors quand vous arrivez là-bas, la capitale, c'est Port Moresby, pardon. C'est la seule ville qui a un semblant de modernité.
Oui, en plus, c'est une ville aujourd'hui qui se développe très vite et qui qui commence à être moderne. Il y a 20 ans, quand on est arrivé là-bas, c'était pas encore le cas. C'était vraiment encore quelques administrations. Les gens vivaient barricadés chez eux.
Ah oui ?
Oui, parce qu'elle avait la réputation et elle était dangereuse. Donc voilà, et aujourd'hui, ça se modernise, il y a des endroits pour sortir, il y a de plus en plus d'expatriés qui y vivent, parce qu'il y a des entreprises qui s'installent, etc. Donc c'est une ville qui est fascinante aussi à cause de ça, parce qu'elle est en pleine expansion, et qu'on voit bien le basculement entre ce que c'était avant et ce que ça tend à devenir, un peu sur le modèle des grandes villes asiatiques. Même si ça en est très loin, quand je dis qu'il y a des endroits pour sortir, il y a deux cinémas et une discothèque, il ne faut pas non plus... et trois bons restaurants. Mais à l'échelle de Port-Moresby, c'est une révolution. Voilà.
Et une vingtaine d'habitants.
ils sont 200 000, je crois. Allons,
dites donc, sur 7 millions d'habitants, c'est pas mal quand même, 200 000.
Oui, et en plus, Port-Moresby, c'est l'endroit où, évidemment, tous les gens du pays se rejoignent. Donc les 800 langues de Papouasie, elles sont presque toutes présentes là-bas. Et souvent, les gens vivent par quartier, donc... c'est pas là que j'amène les gens, quand même. Mais cela dit, quand on est à Port-Moresby, on est déjà en Papouasie vraiment, parce qu'on est avec des gens qui viennent du Sépik, dont on parlera un peu tout à l'heure, je pense. On est avec des gens des montagnes. Après, on est avec les gens qui vivent là depuis toujours. Et à chaque fois, c'est déjà des univers différents.
Alors, vous disiez justement que la ville était réputée dangereuse. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est réputée dangereuse. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est un mythe, une réalité?
Non, c'est une réalité avec laquelle il faut faire. C'est pas un pays plus dangereux qu'un autre, enfin que il faut faire attention en Papouasie, il faut savoir ce qui est dangereux ou pas, il faut être prudent.
Oui, alors ça veut dire quoi, dangereux?
C'est dangereux parce que d'abord les Papous sont des gens qui aimaient bien faire la guerre, et donc ils ont gardé en eux cette habitude-là de régler les problèmes d'abord par la violence, et après on discute. Voilà. Mais on montre d'abord ses muscles, et montrer ses muscles, ça passe par un petit coup de hache parfois.
Ah oui.
Voilà. Donc ça, il faut le savoir et le garder à l'esprit. Et puis c'est dangereux parce que c'est un pays pauvre et en voie de développement, donc il y a de la criminalité à laquelle il faut faire attention, qui est nous notre principale préoccupation. Et voilà, on a jusqu'à aujourd'hui jamais eu de problème avec ça. Et moi, je me suis jamais fait attaquer en Papouasie.
Mais non, ils vont pas vous attaquer. Enfin, vous disiez qu'ils sortaient facilement la hache, mais
non, la plupart des choses dont on entend parler de guerre tribale.
Oui.
Et donc c'est vrai, les gens se battent. Et moi, je travaille avec des gens qui se battent parfois avec d'autres tribus. Donc dans ce cas-là, quand ils sont en guerre, nous on va ailleurs.
Ah oui, bah oui.
Oui, voilà. Et puis à Port-Moresby, il y avait de la criminalité, mais ça diminue aujourd'hui.
Alors, il y a plein d'endroits que, évidemment, quand on va sur le site de votre agence de voyage, ça fait rêver. On va essayer d'en évoquer quelques-uns, je pense, notamment aux Maisons des Esprits, qui sont très marquantes.
Les Maisons des Esprits sur le fleuve Sépik, c'est quelque chose qui est qui est assez incroyable et qui en plus, dans son contexte, l'est encore plus. C'est-à-dire que pour aller sur le Sepik, donc c'est un fleuve, il faut monter sur des pirogues en bois, des troncs d'arbres évidés, et puis on descend ce fleuve. Alors on passe de la forêt, des grands champs de joncs, c'est assez lent, hein, ces bateaux. Puis on débarque dans un village avec ses maisons en chaume, et poum, on tombe sur des structures qui font parfois 15 mètres de haut, entières avec des piliers de bois qui sont entièrement sculptés, avec des écorces peintes, avec à l'intérieur des masques, des sculptures. Et voilà, c'est un choc esthétique, c'est un choc culturel aussi. Et surtout, on se demande, mais nous, on imagine qu'on est au fin fond de la forêt, on a l'impression d'être chez des gens qu'on qualifie parfois de primitifs. Et d'un seul coup, on se retrouve devant une œuvre d'art géante. Moi, j'appelle ça les cathédrales des arts premiers, parce que c'est énorme, et que c'est un travail incroyable, et que c'est très beau.
Voilà, alors on ira voir aussi, d'ailleurs le long de ce fleuve il y a également des jolies parures, des festivals des parures, des festivals, des chants, des danses, vous avez assisté à plein de choses. Allez, on en parle d'ici une minute sur France Bleu Isère. France Bleu.
C'était ce matin sur France Bleu Isère.
Les péages augmentent donc de 1,12% en moyenne aujourd'hui.
Nous dénonçons effectivement cette hausse qui pour nous est abusive alors que l'inflation est quasi nulle. Depuis 10 ans, les augmentations des tarifs d'autoroute sont deux fois supérieures à l'inflation.
Retrouvez toute l'équipe de France Bleu Isère matin, demain entre 6h et 9h. France Bleu Isère, la radio en plus forte progression sur l'agglomération grenobloise. France Bleu Isère vous fait aimer le cinéma.
Il y a une petite dizaine d'années, il y avait encore deux médecins sur le canton.
Et aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul.
Jean-Pierre, médecin à la campagne, doit se faire remplacer et accepter l'aide de Nathalie.
Vous avez déjà pratiqué la campagne ?
Non. En fait, je viens de finir mon internat.
François Cluzet, Marianne Denicourt.
Je fais les visites pendant que vous faites les consultations.
France Bleu Isère vous invite ce lundi 8 février au Pâté Chavant de Grenoble à l'avant-première de Médecins de campagne, le nouveau film de Thomas Lilti. Pour gagner vos places, écoutez France Bleu Isère. France Bleu.
Portrait d'Isère, destination la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec vous Philippe Gigliotti de l'agence Voyage en Papouasie. Terre que vous arpentez depuis plus de 20 ans, on le rappelle, une terre fascinante par la diversité de ses cultures, de ses tribus avec plus de 800 langues. Et parmi les événements marquants que vous avez vécu, auxquels vous avez participé, je pense à ce festival d'Agen.
Le festival d'Agen, c'est un moment magique qui dure deux jours où la ville d'Agen, qui est dans les hauts plateaux de Papouasie, au milieu des montagnes, vous avez toutes les tribus, toutes les ethnies de ces montagnes qui se réunissent là pour un grand concours de parures, justement. Donc, ils viennent dans leur tenue de fête, qui sont composées de grandes plumes, de peintures, de plantes odorantes aussi. Donc, il y a le son, la vue, les odeurs. Et vous avez donc une centaine de tribus qui sont là et qui dansent en même temps, qui chantent, qui sautent, qui hurlent parfois. Donc, c'est un des derniers grands événements tribaux du monde, à mon avis, auquel on peut assister. Et je me souviens que maintenant, je commence à l'avoir vu beaucoup, alors... La magie, je le vois avec un œil un peu plus distancié, mais la première fois que je l'ai vu, j'en revenais pas. Et les gens que j'amène là-bas continuent chaque année d'être émerveillés par ce truc-là.
Autre événement marquant, les danses du feu.
Alors les danses du feu, ça c'est encore... Voilà, parce qu'autant le festival d'Agen, c'est quelque chose qui est organisé par le gouvernement, autant les danses du feu, c'est quelque chose que j'ai découvert complètement par hasard et qui illustre parfaitement la Papouasie. Voilà, j'étais invité dans un village par une personne que j'avais rencontrée très rapidement et qui m'avait dit « Viens chez moi, il y aura une fête ». Donc je suis arrivé le jour prévu. Et effectivement, la fête avait lieu. Au début, j'étais un peu déçu parce que en début de soirée, donc on a coupé les cheveux à des enfants et puis on a partagé un peu de nourriture. Et on m'a dit oui, mais la vraie fête va arriver plus tard. Et j'ai dû attendre 4-5 heures jusqu'à minuit pour qu'il se passe enfin quelque chose. Je commençais vraiment à me morfondre. Et là, au milieu du village, dans la forêt, les gens ont allumé un énorme feu. Et puis de grands masques. On commençait à sortir des grands masques portés par des gens, évidemment. On commençait à sortir du noir profond de la forêt et à venir danser autour du feu. Donc ces grands masques blancs, peints, qui font parfois 2 mètres de large, 2, 3 mètres de haut, tournaient autour du feu. Et puis petit à petit, au son des bambous et des chants, se sont mis à se jeter dedans, à danser dans le feu, autour du feu. Et c'était un moment incroyable. Il faut être en Papouasie pour vivre des choses comme ça. Surtout quand on s'y attend pas du tout.
Alors, je pense aussi, il y a des régions très isolées. Je pense à Beauzavie, où il y a une culture spectaculaire. Et là, ils vivent dans de grandes maisons communautaires. Et là aussi, il y a des danses nocturnes.
Là aussi, il y a des danses nocturnes. Alors, eux, c'est une des populations vraiment particulières. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. C'est des gens qui font pas de jardin, qui ne vivent que de la forêt, que de ce qu'elle peut leur apporter. Donc ils ont une connaissance déjà de leur environnement qui est fascinante et dont on ferait bien de s'inspirer. Et puis ils habitent donc dans des grandes maisons tous ensemble, des maisons longues, où la nuit, il y a des fêtes qui sont là encore spectaculaires. Et c'est plein de plumes à nouveau. C'est des très beaux chants, très poétiques. Le but du jeu pour les gens qui dansent et qui dansent, c'est de faire pleurer les gens dans l'assistance en évoquant des moments tristes, soit en parlant de leur vie ou de la vie de quelqu'un d'autre. Ils font des petits poèmes qui ressemblent un peu aux poèmes japonais. Et quand les gens pleurent, ils viennent, ils rentrent dans la danse. Et il brûle le danseur. Alors, on va trouver ça un peu violent, mais c'est une marque de respect, en fait. Et le danseur, lui, reste stoïque et continue sa danse comme si de rien n'était. Et il montre ainsi son courage.
Vous avez aussi participé à des rites d'initiation, hein, des jeunes hommes qui deviennent hommes. Oui. C'est un petit peu dur aussi, ça.
Alors, ça aussi, c'est dur. Oui, c'est un pays qui est dur, effectivement. C'est sur le Sepik, dans ces grandes maisons des esprits, les gens, c'est l'ethnie Yatmoul qui veut ressembler... qui croit au grand esprit crocodile, et donc les hommes, pour devenir des hommes, doivent s'incarner dans un crocodile. Et pour ça, on les scarifie, donc on leur coupe la peau pour leur faire une peau de crocodile. Alors c'est assez violent parce qu'il y a plusieurs centaines d'incisions quand ça se fait, et qu'après, pendant un mois, ils sont couverts de boue et ils passent tout un processus qui est dur, il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est pareil, c'est un moment où quand vous y assistez, vous êtes plongé dans un monde mystique, dans un monde de magie, d'esprit, où la réalité est un peu, on est un peu perdu à nouveau parce qu'on sait plus ce qui est vrai ou pas, on comprend pas pourquoi ils souffrent comme ça, comment ils font pour pas être blessés ou mourir, parce que moi, honnêtement, je pense qu'à la troisième coupure, je suis dans les pommes.
Peut-être même la deuxième.
Donc voilà.
Philippe Giglietti, on en parlerait pendant des heures, on l'a bien compris, hein, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un pays aux mille cultures, donc on en parle, mais il faut qu'on s'arrête. Ça va être la question à l'invité, ce sera juste après Liliane Renaud sur France Bleu Isère.
Les portraits de l'Isère, Michel Caron.
Quand on aura usé toutes nos armes, tant de combats qu'on n'aura plus une larme, il faudra vivre. Puisqu'on est là pour ça, il faudra vivre. Quand on aura vendu nos rêves d'enfance, on ne pourra pas se racheter l'innocence. Il faudra vivre. Puisqu'on est fait comme ça, il faudra vivre. Et on pardonne. Qu'on assassine, il faudra vivre. Puisqu'on est encore là, il faudra vivre. Et on pardonne tout, même tout ce que nous sommes. Et on pardonne. On doit s'endormir avec le soir. Et tous les fantômes d'hier nous donneront la lumière. Le sens du vent de la rivière.
faudra vivre. Bien sûr, Liane Renaud sur France Bleu Isère.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Philippe Gigliotti, vous avez choisi quelqu'un dont on parle beaucoup depuis le début de l'émission, Marc Dozier, qui était notre invité il y a quelques temps sur France Bleu Isère pour nous raconter son voyage aux États-Unis avec un chef papou. Bonjour Marc, ravi de vous retrouver.
Bonjour. Bonjour Michel.
Philippe, dites bonjour à Marc, s'il vous
bonjour
plaît.
Bonjour Marc, alors, ça va?
À chaque fois, c'est à dire.
Salut Philippe.
Bon Marc, vous avez une question à poser à votre ami avec qui, à qui vous avez fait découvrir la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Allez-y, il vous écoute Marc.
Mais écoutez, j'aimerais bien qu'il me donne des nouvelles de Filma. Il vous en dira un petit peu plus.
Ah, alors qui est Filma? Je veux tout savoir. Alors, et venez près du micro, Philippe.
Filma,
reste avec nous.
Filma, merci Marc. Filma, c'est une belle histoire. C'est la toute première fois où on est allé en Papouasie ensemble. On y est.
Avec Filma ou avec
Marc? Non,
avec
Marc. Filma n'existait pas encore à l'époque. On est allé tout au bout d'une route, dans la, à Enga. Et à Wabag, la ville de Wabag, où on a été hébergé chez des gens incroyables, qui nous ont loué une maison, qui nous ont nourris, qui se sont occupés de nous. Et puis, il y avait une dame enceinte là. Et quand on est parti, quand on est rentré en France, la fois suivante, quand on a eu des nouvelles d'elle, elle nous a dit « J'ai accouché, c'est un garçon. » Et je l'ai appelé Filma pour Philippe et Marc.
Oh !
Donc il y a un Filma qui se promène en Papouasie et que j'ai revu cette année au Festival d'Hagen, justement, avec un grand plaisir. Maintenant, c'est un grand jeune homme qui fait des belles études. Donc il va très bien, il pense à nous. Et il sait d'où vient son prénom.
Oh, dis donc, c'est magnifique, vous êtes réunis. C'est magnifique. Jeune homme, oui.
Qui raconte bien la Papouasie, la générosité des gens et l'amour qui nous donne très vite. Et que j'espère qu'avec Marc, on leur rend à chaque fois qu'on parle de Papouasie.
Bah, vous, je ne sais pas, mais Marc, moi, ça, je le sais.
Bon. Philippe aussi.
Oui, je le crois aussi, c'était pour le taquiner un petit peu. Mais écoutez, merci beaucoup Marc, et puis on compte sur la sortie de votre livre Les Américains. Écoutez, je ne sais plus le titre, excusez-moi.
La tribu des Américains,
qui raconte votre expédition.
C'est prévu en septembre,
écoutez, vous viendrez en parler avec plaisir dans les studios de France Bleu Isère. Merci infiniment Marc.
Au revoir Marc.
Au revoir.
Juste une petite question avant de rendre l'antenne, Philippe Gigliotti. Comment nous perçoivent-ils, les papous, nous, les occidentaux?
Alors, quand on est chez eux, ils nous voient un peu comme des enfants dont il faut prendre soin, quand même, parce que, comme je disais, la vie est dure et que nous, on s'y connaît pas. Et sinon, ils nous perçoivent comme des gens qui savent beaucoup de choses.
Bon, voilà. Eh ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci infiniment d'avoir passé cette demi-heure avec nous, de nous avoir fait rêver sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On peut réécouter cette émission sur francebleu.fr.